Que le nom du Seigneur soit béni. C'est une grâce de se retrouver devant Dieu. Nous le réalisons souvent quand le temps passe, combien Dieu a été fidèle de nous conduire dans sa maison, de nous pousser dans une certaine expérience. Nous allons faire 3 lectures, s'il vous plaît, et voir ce soir une histoire que nous connaissons bien, mais qui nous montre combien Dieu ne se trompe pas. Comment il doit agir dans notre vie? Premièrement, dans Luc au chapitre 16, du verset 13 au verset 17, il nous est rappelé que Dieu connaît nos cœurs. Est-ce que c'est important pour vous que Dieu vous connaisse bien? Vous pensez vous connaître? Est-ce que vous vous connaissez bien? Je pense qu'on ne se connaît pas si bien que ça. On a été malheureux par certaines de nos réactions. On avait dit de certaines personnes, moi je ne ferai jamais ça. Et puis on a souvent fait pareil. C'est bien la preuve que nous ne nous connaissons pas. Mais Dieu, lui, connaît nos cœurs. Luc chapitre 16, verset 13. « Nul serviteur ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela, et ils se moquaient de lui. Jésus leur dit, « Vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé, et chacun use de violence pour y rentrer. Il est plus facile que le ciel et la terre passent, qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. Amen. » Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que nous venons de lire. Nous allons faire une autre lecture. Dans le premier livre des rois, il nous est rappelé un peu ce que nous avons lu, à savoir que Dieu connaît le cœur de chacun, dans un contexte où il nous demande de réfléchir. C'est important de réfléchir. Tout est fait pour qu'on ne réfléchisse pas. Les gens vivent continuellement avec du bruit, la musique, la télé, des occupations, pour ne pas pouvoir réfléchir. Et Dieu nous accorde la grâce ce soir de pouvoir et bien comprendre ces choses. Un roi, chapitre 8, verset 38. « Si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur, et étende les mains vers cette maison. » Retenez bien cette expression, « que chacun reconnaisse la plaie de son cœur. » Il y a des plaies parfois dans le cœur, des souffrances. « Exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne, agis, et rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul, je répète, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes. Amen. » Et pour aller plus loin dans cette perception, nous allons lire une belle histoire dans le deuxième livre des rois, au chapitre 5. On va lire le chapitre en entier. C'est important de le lire en entier. Il y a 5 personnes dans ce texte, et 5 personnes ont un comportement complètement différent. Et Dieu va bénir l'un, et Dieu va devoir agir dans la vie de quelqu'un d'autre. Regardez bien. C'est important d'étudier le comportement de ces personnages dans 2 Rois, chapitre 5. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, je t'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 sicles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. »
Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit « Suis-je Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre ? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi « Pourquoi tu déchirais tes vêtements ? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fait dire par un messager « Va, et lave-toi sept fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine, et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Albana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur ?» Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler, lui dire « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea sept fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite, il y avait 50 kilomètres à peu près. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit « « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux, ni holocauste, ni sacrifice, il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimmon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimmon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimmon. » Élisée lui dit, « Va en paix. » Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, « Voici, mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. » Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit « Tout va-t-il bien ?» Il répondit « Tout va bien, mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. » Naaman dit « Consent à prendre 2 talents. » Il le pressa et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donna 2 habits de rechange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison et il renvoya ses gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit « D'où viens-tu, Géasi ?» Il répondit « Ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni de l'autre. » Mais Élisée lui dit, « Mon esprit n'était pas absent. Lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre, est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes ? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. » Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Amen. Vous avouerez que c'est quand même une drôle d'histoire. Vous avez lu avec moi dans l'évangile de Luc tout à l'heure que la terre passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Tout ce que Dieu dit est important. Tout ce qui est écrit est important. Dieu est la vérité. Jésus a dit « Je suis la vérité ». Nous avons grandi en ne sachant pas toujours si les gens étaient vrais. Vous êtes d'accord avec moi?
Je prends un exemple. Nous avons tous éduqué des enfants. Si vous avez des enfants, nous avons dit aux enfants, voilà, si tu es pas sage, je te corrigerai. Tu verras, je te... Puis l'enfant, il a continué à faire des bêtises et on n'a pas corrigé. Parce qu'on a oublié, parce qu'on n'a pas pensé. Ça fait que nous avons tous grandi en voyant des gens qui n'étaient pas toujours fidèles à la parole. Mais il faut bien comprendre que quand on lit la parole de Dieu, on est en phase et en face de la vérité. Et nous avons besoin d'entendre la vérité. Nous n'avons pas besoin d'entendre des trucs qui sont bien, qui nous plaisent ou qui ne nous plaisent pas. Tout ça, c'est du charabia, ça ne sert à rien. Ce que nous avons besoin, c'est d'entendre la vérité. Pour nous, pour moi, pour vous, nous avons besoin de vérité. Nous devons aimer la vérité. Mais nous vivons dans un monde où il y a tellement de mensonges. Nous avons appris à vivre dans cette espèce de légèreté. Ça fait que combien de gens disent « moi, je n'ai confiance en personne ». Mais ils ont raison. Ça s'explique. Ils n'ont pas dit ça sur un coup de tête. Ça s'explique. Et vous avez peut-être raison d'avoir confiance en personne. Mais laissez-moi vous dire que si Dieu vous parle, vous devez le croire. Ne, je ne parle pas de religion ou de personnes qui essaient de vous convaincre de ci ou de là. Non, je vous parle lorsque le Saint-Esprit parle à votre cœur et qu'il veut vous montrer quelque chose. Cette histoire, moi je l'ai lue, je ne sais pas, peut-être 50 fois, 100 fois. Et je peux vous dire que cet après-midi, j'avais tout préparé toute une prédication sur la piété, parce que j'avais pris tous les textes sur la piété hier soir. Et puis quand j'ai fini de préparer cette étude sur la piété, j'ai été poussé à vous parler de cette histoire. Et je crois que Dieu veut parler à quelqu'un ce soir au travers de cette histoire. C'est une histoire sérieuse. Une histoire sérieuse qui nous veut prendre conscience au travers des trois lectures qu'on a faites, que oui, Dieu connaît votre cœur. J'en ai parlé dimanche, Dieu connaissait le cœur d'Asaph, avec tout ce qu'il s'est trimballé pendant des mois tout en étant dans le temple, mais Dieu savait qu'il essayait de faire de son mieux. Les hommes l'auront rejeté, mais Dieu, connaissant son cœur, l'a béni et l'a maintenu dans le service que David lui avait confié. Dans cette histoire, nous voyons plusieurs personnes, un roi, un prophète, le collaborateur d'un prophète, un drôle de collaborateur. Nous voyons un général qui a mis la défaite en Israël, qui va obtenir la bénédiction. Et nous voyons surtout, dans toute cette histoire extraordinaire, une petite fille qui est un témoignage extraordinaire pour l'Église. Une petite fille qui va amener la bénédiction sur un homme qui l'a amené captive. Pour vous dire qu'il y a des gens, croyez-moi, qui savent pardonner. Et ce sont des choses qui sont là dans la parole de Dieu pour nous montrer qu'il y a des païens qui seront bénis et qu'il y a des chrétiens qui seront maudits. C'est ça ce que la Bible nous enseigne. Et que ce sont des choses qu'il faut prendre au sérieux. Dieu connaît le cœur de chacun. Quand Dieu dit que chacun reconnaisse la plaie, parce qu'on est blessé, parce que le fait que nous, les hommes, nous vivons dans une misère totale, nous sommes continuellement, sans nous en rendre compte, en train de nous blesser les uns les autres. Oui ou non, vous n'avez pas déjà blessé quelqu'un? Vous n'avez jamais fait de mal à quelqu'un? Ah, si j'avais su, j'aurais jamais dit ça. Vous n'avez jamais fait du mal à quelqu'un? Et c'est normal, parce qu'on n'est pas parfait, parce qu'on est des pécheurs. Mais il faut bien faire la différence entre ce que les hommes font et ce que les hommes disent et ce que Dieu est capable de faire dans votre cœur. Car Dieu connaît le cœur de chacun, non pas pour nous épier, il n'a pas besoin de nous épier, il connaît le cœur de chacun parce qu'il sait exactement comment il va nous bénir. Et il sait exactement comment nous rencontrer. Que chacun reconnaisse la plaie de son cœur. Il y a peut-être quelque chose qui ne va pas dans votre cœur. Reconnaissez-le. N'en faites pas une affaire. Ne vous justifiez pas. N'essayez pas de trouver des excuses. Dieu n'en a pas besoin. Dieu a besoin que vous lui disiez, voilà Seigneur, je suis comme ça. Fais-moi grâce. Plutôt que de dire, oui, mais je comprends, si ceci. Ne cherchez pas d'excuses. De toute façon, quand on cherche des excuses, c'est qu'on a raison. C'est qu'on croit qu'on a raison. Mais quand on demande pardon, c'est qu'on croit que Dieu est grand et qu'il est capable de bénir. Quelle histoire! C'est une histoire extraordinaire. Il faudrait en faire un film de cette histoire, tellement c'est une histoire merveilleuse. Vous vous rendez compte? Le général de l'armée ennemie d'Israël va être béni comme c'est pas possible. Et Géasi, le futur prophète, va être puni jusqu'à la fin de sa vie. Est-ce que vous vous rendez compte? Ça ne vous étonne pas, ça? Ça ne vous étonne pas, ça? C'est quand même un général syrien. qui a amené la destruction d'Israël. Et cet homme, il va être béni. Oui, il y a des choses qu'il faut comprendre. Et Dieu sait pourquoi ça a été écrit. Parce que Dieu est capable de bénir un pécheur, croyez-moi. Vous le croyez? Vous croyez que Dieu est capable de bénir quelqu'un qui est contre Dieu? Vous croyez que Dieu est capable de, eh bien, de laisser de côté un chrétien qui se croit tout permis, et parce qu'il est chrétien, et de l'abandonner? Eh bien oui. Les Géazis existent encore aujourd'hui. Ces choses ont été écrites pour notre instruction. Ces textes-là ont été voulus par Dieu pour amener des hommes à passer des ténèbres à la lumière. Vous savez, par exemple, il y a des milliers de choses à retirer, des milliers, j'exagère, mais des dizaines de choses à tirer de ce chapitre. Vous voyez, Géazi vivait en contact très étroit avec Élisée. Vous êtes d'accord? C'était quand même quelqu'un, Élisée, oui ou non? Est-ce que ça a été un grand prophète, Élisée? Eh bien, voyez, ce n'est pas parce que l'on vit très étroitement avec quelqu'un de spirituel qu'on va le devenir. Vous en demanderez à Judas, il vivait avec quelqu'un de très spirituel. Et ça ne l'a pas empêché de se perdre. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut faire attention, c'est une responsabilité personnelle. Je voulais prêcher sur la piété. Dieu dit, mais exerce-toi à la piété, ce qui nous prouve que c'est une responsabilité personnelle que de faire des progrès avec Dieu. Ça ne dépend pas que du pasteur, ça ne dépend pas que des copains, des amis, des frères et des sœurs. Ça dépend d'une décision personnelle de faire des progrès. Oui. Alors vous avez vu comment cet homme il est, quand on voit le cœur d'Élisée qui fait tout conduit par Dieu pour que Naaman ne dépende pas du prophète, mais que Naaman dépende de Dieu. Quand vous lisez cette histoire 20 fois, vous voyez bien que les paroles d'Élisée sont conduites pour que Naaman ne dépende que de Dieu. C'est pour ça qu'il ne voudra rien de lui, et vous avez vu, alors donne-moi de la terre d'Israël, puisque je puisse offrir un sacrifice qu'à Dieu. Il va mener cet homme à ne dépendre que de Dieu. Et dans une église, on doit mener les gens à ne dépendre que de Jésus-Christ. C'est comme ça que les gens sont véritablement bénis. Tandis que lui, vous voyez, il est dans un état de critique, Géazi, et comment il a ménagé ce Syrien. On voit que cet homme, il n'est pas dans le pardon, il est dans le racisme, parce qu'il n'a pas accepté ce que le pays a vécu à cause d'un général syrien. On le voit, il n'est pas du tout dans un bon état d'esprit. Et faites attention, vous pouvez être avec des gens très bien, mais veillez sur votre état d'esprit. Et si j'ai pris le texte d'avant, que chacun reconnaisse la plaie de son cœur, parce que s'il avait fait ça, Géazi, ben Dieu l'aurait béni. Quand Élisée lui a dit, mais tu étais où? Ah ben moi, j'étais nulle part. S'il avait dit, pardon, il aurait dû, est-ce qu'il n'aurait pas dû comprendre là? Mais s'il avait dit, je te demande pardon. Est-ce que Dieu l'aurait pardonné? Mais oui, de suite. Et il a fait celui qui... Ça n'avait rien, non, j'ai rien fait, moi, je suis là. Moi. Et vous savez, quand on commence à jouer à ce jeu, ça ne va pas aller loin. Quand on reconnaît la paix de son cœur, non, j'ai pas été bon envers mon épouse, j'ai mal été avec mes enfants, je me suis mal comporté avec mon patron, je me suis mal comporté peut-être avec mon voisin, je veux me demander pardon. Eh bien, Dieu bénit. Quand quelqu'un reconnaît la paix de son cœur, Dieu le bénit. C'est comme ça. Que le nom du Seigneur soit glorifié pour son immense pardon. Vous voyez, on est impressionné. On voit un homme de Dieu cupide, il veut l'argent, et on voit un païen généreux. Vous voyez que ça existe. Le païen, lui, il est prêt à tout donner. Et le serviteur de Dieu, il veut tout pour lui. C'est des enseignements. Ce n'est pas parce qu'on devient chrétien que tous les problèmes sont réglés ou qu'on a pris le temps de régler les problèmes. Ah, bien sûr que le raisonnement d'Élisée, de Géazi, s'explique. Comment ça? C'est un ennemi. Et on va pas quand même faire des courbettes. Il est plein de rancune. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir de la rancune, d'avoir de la cupidité, je ne sais pas, du racisme. Il était en plein dedans. Il faut savoir reconnaître ce qui ne va pas. Peut-être qu'on vous a mal éduqué, ou peut-être que votre éducation a fait que vous êtes devenu avare. Est-ce qu'on peut nous enseigner l'avarice? Est-ce que ça peut s'enseigner, ça? Je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut hériter de ses parents, j'en sais rien. Mais il est là. Et vous avez vu le résultat que ça va produire? parce qu'il n'a pas reconnu la plaie de son cœur. Vous avez vu comment ça va se terminer? Vous avez vu comment ça s'est terminé pour Judas qui aimait l'argent? Et pourtant, c'était un homme de Dieu. C'était un pasteur. C'était un homme qui a été utilisé par Dieu pour faire des choses extraordinaires. Il n'a pas reconnu la plaie de son cœur et ça l'a perdu. Et quand on calcule pour soi, c'est jamais bon. C'est jamais bon quand on calcule pour soi. Vous vous rendez compte? Il va même jusqu'à mettre le mensonge dans la bouche d'Élisée. Vous avez vu? Vous avez vu quand il lui dit... comment il dit? Gazi, couche la prenne à main. Tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici. Vous voyez? Il fait mentir son maître. Vous comprenez? Puisque Élisée avait dit non, je veux rien. Et puis quelques minutes après, il le fait mentir, puisqu'il revient sur sa décision. Voyez, il laisse croire que ce n'est pas lui qui est intéressé, mais que c'est quelqu'un d'autre. Il demande un talent d'argent. Un talent d'argent, j'ai regardé tout à l'heure pour ne pas me tromper, ça correspond à 49 kilos de sang. Je pense que j'ai vu les informations hier et qu'il y avait des grêlons qui sont tombés dans un endroit comme des œufs de poule. Dans l'Apocalypse, il est dit que quand la colère de Dieu viendra, après l'enlèvement de l'Église, il y aura un jour où il y aura des grêlons d'un talent qui tomberont sur la surface de la terre. Quand même, ça a été écrit pour qu'on réfléchisse, qu'on ne se moque pas de Dieu. Un talent d'argent, ça correspond donc presque à 50 kilos, c'était le salaire d'un ouvrier sur 20 ans. Mais vous avez vu Naaman dans la foulée? Non, prends pas un, prends-en deux. Comme quoi, vous voyez, il y a des hommes qui sont vraiment généreux. Et cette parole de jugement, parce que c'est quand même une folie, d'un côté, on voit un païen qui va être béni, et de l'autre, on voit un chrétien qui va être maudit. Et cette parole, elle est pour tous les chrétiens. Que nous fassions attention à ne pas nous laisser piéger par le racisme, la cupidité, la rancune, parce que ces choses peuvent nous amener très loin de Dieu. Vous avez vu ce qu'il dit à la fin? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Vous ne trouvez pas que c'est une parole sévère? Mais vous savez, mes frères et sœurs, ce n'est pas d'aujourd'hui. Ce que l'on sème, on le récolte. Naaman, lui, est un homme qui, bien sûr, c'était un général. Il a fait ce qu'on lui a demandé. Et même quand on voit, si vous lisez dans un livre d'histoire, les choses ne vous seront pas présentées pareil. Mais les livres d'histoire, on nous parle de guerre. Et la Bible nous parle des choses spirituelles. Et quand on voit quand même que c'était par verset premier, c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Donc, Dieu était dans l'affaire, dans toute chose. Ce qui se passe aujourd'hui, tiens donc, en Syrie, on peut se poser des questions. Mais moi, je peux vous dire que tout ça prépare l'accomplissement des prophéties qui sont dans le livre, dans les livres de la Bible. Ça, c'est un autre sujet. Donc, Élisée veut amener cet homme à dépendre de Dieu. C'est pour ça qu'il ne va pas lui-même à sa rencontre. Cet homme, il est irrité parce que c'est quand même quelqu'un. C'est un général, c'est un homme qui a des responsabilités. C'est l'homme le premier après le roi. Mais voyez, c'est un homme qui est peut-être irrité, mais c'est un homme intelligent. Il y a des gens, lorsqu'ils s'irritent, ils s'en vont tout balader, ils mettent tout à plat, ils s'énervent, ils fuient, ils s'en vont, etc. C'est un homme irrité, mais c'est un homme intelligent. Premièrement, il sait commander, mais il sait écouter. Je ne sais pas quelles sont vos responsabilités là, où vous êtes. Je ne sais pas où vous travaillez, peut-être vous avez des responsabilités. Sachez commander, mais sachez aussi écouter. Parce qu'il a su écouter le témoignage de la petite jeune fille, d'accord? Il a pris au sérieux quand même, ça pour vous dire combien cette jeune fille, elle devait avoir un témoignage extraordinaire. Il a pris au sérieux le témoignage de cette grosse. Donc il a su écouter le témoignage de cette fille, et puis il a su écouter ses serviteurs qui lui ont dit « Mais écoute, si tu avais demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait, alors écoute, fais-le !» Bien sûr, ça fait drôle cette affaire de se plonger cette fois dans le Jourdain, mais ça paraît ridicule. Mais vous savez, quand on lit la Bible pour la première fois, ça paraît ridicule. Dieu, on a besoin de guérison, on a besoin d'un travail, et Dieu nous parle de repentance. On peut dire, mais si c'est ça, eh bien moi j'ai besoin d'autre chose. Au début, on ne comprend pas la parole. Quand nous étions en vacances cet été, nous étions dans une église Vie et Lumière, et pendant le culte, il y a un frère, un tzigane, qui a chanté une chanson, moi j'en ai pleuré, sur la veuve de Sarepta. Vous savez que la veuve de Sarepta, n'a pas compris les paroles. Et le refrain, c'était « Quelle est dure ta parole ! Quelle est dure ta parole pour la femme de Sidon !» C'était un chant magnifique. Et à la fin, c'était « Quelle est belle ta parole pour la femme de Sidon !» Au début, on ne comprend pas toujours quand Dieu nous parle. Vous êtes d'accord ? Même des fois, les années passent, on ne comprend pas toujours ce que Dieu veut nous dire. Il faut parfois que Dieu serre un peu les boulons. Mais mes frères et sœurs, ce que Dieu doit faire, laissez-le faire. Laissez-le faire dans votre vie. Je ne sais pas si un jour vous serez appelé à commander quelque chose. C'est bien, mais apprenez surtout à écouter, car Dieu fait grâce aux humbles. Alléluia. Vous le croyez que Dieu fait grâce aux humbles? Et si ce soir vous êtes dans l'humilité, Dieu vous bénira. Si vous dites, oui, je reconnais mon orgueil, je reconnais ma cupidité, je reconnais que je suis raciste. Et ça arrive, hélas. Moi, je ne le comprends pas trop, mais on le voit, ça doit dépendre de certaines situations. Reconnaissez-le. Dieu vous aidera. Dieu ne va pas vous montrer votre péché, votre plaie, pour vous accabler, vous écraser. Ça, c'est le devoir du diable de le faire. La grâce de Dieu fait que quand Dieu vous éclaire, c'est pour vous délivrer et vous pardonner. Voilà, et quand Élisée fait certaines choses, c'est pour le bien. Quand Naaman obéit, eh bien, ça va tourner à son affaire. Que le nom du Seigneur soit béni. Oui, Élisée ne veut rien, ça nous rappelle aussi que le salut est gratuit. Alléluia. Ce soir, vous avez besoin de la grâce de Dieu. Qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut donner un peu d'argent? Est-ce qu'il faut que je récite des prières? Est-ce qu'il faut que je fasse ceci, cela? Est-ce qu'il faut que je fasse un certain pèlerinage? Non. Il vous faut dire, Seigneur Jésus, je te demande pardon de tout mon cœur pour tous mes péchés. Et Dieu vous fera grâce, car le salut, il est gratuit. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est important de comprendre l'attitude d'Élisée, parce que nous devrions, nous également, les hommes de Dieu, et nous les chrétiens, amener les gens à ne dépendre que du Seigneur. Et non pas dépendre de nous. Bon, au début, c'est un peu comme un enfant. On dépend un peu de quelqu'un qui va nous aider, d'un frère, d'une sœur. Mais après, nous devons arriver à dépendre uniquement de Dieu seul. Ce qui nous intéresse le plus, bien sûr, c'est cette jeune fille. Vous ne trouvez pas? Qu'est-ce que vous en pensez de cette jeune fille? Quelle différence, par exemple, entre cette jeune fille et le roi d'Israël? Vous avez vu la différence? Le propos de ce roi d'Israël? Quel aveuglement! Quel aveuglement, il pense que le roi de Syrie veut lui déclarer la guerre, etc. Il est dans un état, aucun discernement. Vous savez, des fois, il vaut mieux prier avant de dire quelque chose. Ce roi n'a aucun discernement. Cette petite fille, elle, quand on chantait « Ma foi est vivante », je me dis, mais c'est exactement ça. Cette jeune fille avait une foi vivante. N'oubliez pas, que c'est une fille qui avait été amenée captive. Avait-elle 6 ans? Avait-elle 10 ans? J'en sais rien. Elle avait certainement, dans cette tranche d'âge, c'est un enfant arraché à son père, à sa mère, à sa famille, à son pays. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, la douleur d'une petite fille de 10 ans, d'être arrachée, peut-être qu'elle a vu son père mourir sous ses yeux. Vous savez, quand on lit l'histoire des guerres, c'est toujours affreux. C'est une femme qui a été arrachée, une jeune fille qui a été arrachée de force à sa famille, à sa nation. Je pense à Joseph, à Daniel, qui ont été arrachés et qui sont retrouvés dans un autre pays. Mais vous vous rendez compte, malgré cette situation, parce que cette petite, elle aurait pu être remplie, elle aussi, d'amertume et de racisme. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va témoigner d'une foi extraordinaire. Pour que la femme du général l'écoute, pour que le général lui-même écoute cette jeune fille, je peux vous dire qu'elle devait avoir une puissance de conviction extraordinaire. Oui, que le nom du Seigneur soit béni. Je peux vous dire qu'il y en a beaucoup à la place de cette jeune fille qui serait remplie d'amertume, mais elle manifeste une assurance extraordinaire. Et il n'y a pas que de l'assurance. Vous avez vu ce qu'elle dit? Mais si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Mais il n'y a pas, moi je ne vois pas que de l'assurance là-dedans. Moi je vois également beaucoup d'amour et du pardon. Est-ce qu'elle avait, pour dire ça, elle avait pardonné? C'est évident. Il n'y a même pas besoin de réfléchir. Oui, l'amour pour des étrangers qui ont détruit sa nation. Cette petite, elle avait la grâce de Dieu sur elle. Qu'il en soit ainsi, mes frères et sœurs. Quoi que ce soit que nous puissions vivre, quoi que ce soit que nous puissions subir, quoi que ce soit que quelqu'un puisse nous faire, quoi que ce soit qu'un étranger puisse nous faire, aimons-les. Cette petite, elle n'aurait pas mis 3 heures ou 3 mois à comprendre le sermon sur la montagne. Vous ne croyez pas? Vous croyez qu'elle aurait vite compris le sermon sur la montagne? Ah mais je peux vous le dire. Cette fille, elle est remplie de 3 choses que Dieu veut que nous ayons. Quand la Bible dit que Dieu veut que nous ayons de la foi, de l'amour et de l'espérance. Cette fille, elle avait gardé ça, malgré, je le répète, toute cette souffrance d'avoir été arrachée. On ne peut pas s'imaginer, mais même à notre âge, on serait arraché de notre nation. Vous vous rendez compte, si demain on vous a arraché, on vous a mené, je ne sais pas moi, dans un pays lointain, être esclave de quelqu'un plus qui a été utilisé pour détruire votre nation. Ce qui nous montre qu'il y a des gens qui prennent la décision d'aimer, de pardonner et de garder la foi, quoi que ce soit qu'il traverse. Vous vous rendez compte? Mais vous vous rendez compte? Elle parle à sa maîtresse quand elle voit son maître qui est malade. Elle dit, mais ça, il peut guérir. Tu ne sais pas que Dieu peut le guérir? Une esclave qui cherche le bien de son maître? Vous vous rendez compte? C'est pas extraordinaire? Une esclave qui veut bénir celui qui la tient prisonnière? Vous ne trouvez pas ça extraordinaire? Sérieusement, vous ne trouvez pas ça merveilleux? Cette histoire, Dieu l'a voulu. Moi, vous savez, plus je lis la Bible, plus je me dis, mais Seigneur, que ton nom soit béni pour toutes ces histoires dans la Bible qui nous montrent ce que nous pouvons devenir lorsque nous dépendons de ta grâce, lorsque nous choisissons d'aimer, lorsque nous choisissons de pardonner, lorsque nous choisissons d'avoir de l'espérance, lorsque nous avons de l'assurance que Dieu est puissant et vivant. Quelle grâce d'avoir la foi, l'espérance et l'amour. Et vous êtes les gens les plus riches, parce que je peux vous dire que cet homme, il avait tout. Il avait le titre, c'était le chef de l'armée de Syrie. C'était un homme qui jouissait de la faveur du roi. C'était un homme considéré, c'était un libérateur, il était fort, il est vaillant. Elle avait moins de ces trucs, mais qui c'était le plus riche au fait? Est-ce que c'était elle ou le général? C'était qui le plus riche? Ben voyez, des fois on se compare, tiens, celui-ci, il a cela, celui-là, oh, il a tout, tout ça lui appartient. Les gens qui sont riches, ce ne sont pas les gens qui ont des possessions matérielles. Les gens qui sont riches, ce sont les gens qui ont choisi, quoi que ce soit qui se passe, de pardonner, d'aimer, d'espérer et de bénir leurs ennemis. Je vous disais qu'elle n'aurait pas eu du mal à comprendre le sermon sur la montagne. Oui, parce que dans le sermon sur la montagne, pour ceux qui l'ignorent, Jésus a dit « Aimez vos ennemis ». Et voilà comment cette petite parcourt l'histoire de l'Église depuis des siècles et des siècles. Quelle grâce d'avoir cette histoire dans la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Oui, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, pardonnez et vous serez pardonnés. Cette jeune fille, elle était peut-être esclave, mais en vérité, elle était libre. Parce que quand vous avez une foi vivante, vous êtes libre. Lorsque vous avez de l'espérance, vous êtes libre. Lorsque vous avez un amour inconditionnel, vous êtes libre. Et vous voulez le bonheur des autres. Géasi, lui, il a vu de la rancune contre les Syriens. Je ne sais pas, moi j'ai déjà vu des chrétiens qui sont contre les Arabes, parce que ceci, parce que la guerre d'Algérie. Et c'est vrai que tout ça, ça s'explique. Mais mes frères et sœurs, nous avons un Dieu qui, lorsque nous reconnaissons la plaie de notre cœur, eh bien, il nous bénit. Alléluia. Et ce soir, Dieu, on n'est pas là pour entendre un sermon de plus, on n'est pas là pour écouter une prédication qui nous fait chaud aux oreilles. Non, on est là parce que le Saint-Esprit, il veut vous bénir, il veut vous guérir, il veut que vous ayez ces 3 choses qui feront que, où que vous serez, où que Dieu vous placera, vous pourrez amener la bénédiction sur les autres. Oui, que chacun reconnaisse la plaie de son cœur. Cette jeune fille, c'est un témoignage extraordinaire. Qui ce soir veut ressortir de ce lieu, le cœur rempli de foi? Cette vraie foi qu'on a chantée, cette véritable espérance de ne pas avoir peur. Cette fille, on le voit, elle n'était pas dans la crainte. C'est hallucinant. En un verset, en une parole de cette jeune fille, vous voyez à qui vous avez affaire. C'est vrai ou c'est pas vrai? Qu'il en soit ainsi, que lorsque nous parlons, lorsque nous répondons, les gens puissent voir que nous aimons le Seigneur de tout notre cœur.